De retour sur les ondes de CFLX 95.5, vous écoutez La Rage du Peuple. On est actuellement avec Thioro et Geoffroy pour parler de la campagne de syndicalisation.
Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui vous pousse à vouloir faire une campagne de syndicalisation?
Bien, qu'est-ce qui nous pousse à faire une campagne de syndicalisation? C'est que, il y a 25 ans, est parti un mouvement d'association d'étudiants salariés dans le Canada anglais. Donc, la plupart des universités ont maintenant leur association d'étudiants salariés, ce qui équivaut à un syndicat. Au Québec, ça y est parti il y a 5 ans à peu près. Toutes les universités d'envergure au Québec ont leur association d'étudiants salariés. Donc, on parle de l'UQAM, de l'UdeM, bon, la plupart des... L'Université de Sherbrooke est la dernière université d'envergure au Québec qui n'a pas son association d'étudiants salariés. Quand je parle d'étudiants salariés, je comprends tout ce qui est auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche, correcteur, surveillant d'examen ou démonstrateur. Les raisons aussi pour lesquelles on a décidé de partir ça, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'anomalies dans les contrats que les étudiants de l'Université de Sherbrooke avaient. Donc, quand je parle d'anomalies, je parle aussi de beaucoup de contrats verbaux, donc des contrats qui ne sont pas écrits, des problèmes...
Laisse place à l'interprétation, dans le fond.
Oui, c'est ça. Par exemple, un élève qui se fait promettre, mettons, par son professeur d'être payé 15 $ de l'heure pour faire de la correction, reçoit sa première paye et est payé 12.
Okay. Ah oui, l'Université de Sherbrooke fait ça avec ses employés?
Bien, c'est l'Université de Sherbrooke, c'est arrivé, il y a des cas qui sont arrivés à l'Université de Sherbrooke, comme il y a des cas qui sont arrivés dans les autres universités du Québec aussi. On a remarqué aussi, surtout beaucoup dans la faculté d'éducation, des problèmes de propriété intellectuelle. Donc, les étudiants qui travaillent pour leurs professeurs sont des recherches qui sont autres que celles reliées à leurs propres études, puis qui, au final, retrouvent leur nom sur aucun document sur lesquels ils ont travaillé. Donc, après ça, les étudiants mettent dans leur CV qu'ils ont travaillé sur telle recherche avec aucune preuve. Donc, c'est eux qui sont pénalisés là-dedans. Aussi, on a remarqué beaucoup de problèmes pour les gens qui travaillent surtout en lab de santé et sécurité au travail des étudiants. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que la loi au Québec stipule que tu es dédommagé si t'arrive quelque chose, tu es dédommagé jusqu'à la fin de ton contrat. Le problème, c'est que ton contrat, un contrat d'étudiant en général, c'est vraiment quelque chose de court. Par exemple, 30 heures. Donc, tu arrives, tu fais ton contrat, tu fais tes 20 premières heures, tu te blesses, mettons, au pied, tu es invalide 3 mois, mais tu vas être dédommagé pour les 10 heures restantes, malgré le fait que tu vas être 3 mois, mettons, dans le plâtre. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'université se déresponsabilise totalement dans ces dossiers-là.
Ça, les personnes que vous tentez de réunir sous un syndicat, c'est combien de personnes environ qui sont salariées à l'université?
C'est assez difficile à estimer. On a déjà eu on estime peut-être, 500 salariés. Mais je ne sais pas si c'est ça le chiffre qu'on a environ, 500?
Non, en fait, ce qui arrive, c'est que, étant donné le fait qu'on n'a aucune liste officielle, que l'université ne fournisse pas une liste avec le fait que, bon, mettons telle personne est étudiante et salariée, on ne peut pas savoir. Donc, on y va vraiment à tâtons.
On y va au pif, si on veut. On obtient les informations de bouche à oreille, puis il y a les courriels des étudiants qui sont sur Internet, mais sinon, légalement, l'université, évidemment, n'est pas obligée de nous donner des listes d'étudiants qui ont des salaires, tu sais. Donc, effectivement, là, à ce moment-là, la seule étape où on va pouvoir avoir... C'est parce que là, il faut comprendre aussi le processus là, autour duquel ça s'inscrit, c'est qu'en ce moment, on est en signature de carte. Donc, on va rencontrer les gens chez eux, puis on essaie de les convaincre d'adhérer à la démarche, OK? Puis, une fois que ça, c'est fait... on conserve la carte, puis à une certaine date éventuelle, qu'évidemment on ne dévoilera pas, puis même nous-mêmes on ne sait pas encore, on va déposer un certain nombre de cartes à la Commission des relations de travail pour demander l'accréditation syndicale pour les personnes qu'on vise. Et à ce moment-là, c'est soit que ça nous prend 50% plus 1 des étudiants travailleurs qui ont signé leur carte pour avoir l'accréditation, ou 35%. Si on a 35%, on s'en va en référendum. Oui ou non, voulez-vous un syndicat? Puis si on n'est pas, si c'est 50% plus 1 des cartes qui ont été signées, bien à ce moment-là, c'est l'accréditation automatique. Donc, c'est à peu près ça la démarche d'un syndicat. C'est de même que ça fonctionne dans n'importe quel syndicat. Sinon, une autre problématique aussi qui est remarquée, c'est peut-être moins vrai à l'Université de Sherbrooke, mais ça existe encore, là, ça existe quand même, mais c'est surtout au niveau des correcteurs, c'est le dépassement d'heure. Le dépassement d'heure, c'est quand même assez, c'est un problème assez majeur, dans le sens que, bon, l'étudiant va se faire donner 2-3 contrats de correction en même temps. Moi, j'ai vu ça dans mon département en politique, là, au bac en politique. Ben, une étudiante qui se fait donner 3-4 contrats en fin de session de correction, 300 copies d'examen corrigées, puis à un moment donné, ben, elle fait de l'overtime, mais son surtemps, ben, elle ne calcule plus. Ben, elle calcule, mais je veux dire, le contrat qu'elle a signé, ou dans la plupart des cas, le contrat qu'elle a eu de manière verbale, ben, le surplus d'heures, elle va aller voir la secrétaire du département, elle va demander d'être payée, puis son surplus d'heures, ben, elle ne sera pas payée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'heures en surplus qui ne sont pas payées par l'université.
Puis aussi, il y a aussi un certain malaise aussi des étudiants, parce que souvent, les personnes qui vont donner un contrat à l'étudiante vont aussi être la personne qui dirige la maîtrise ou le doctorat de la personne. Donc, il y a comme une double relation. Il y a une relation professionnelle d'une part, de l'autre part, il y a une relation académique. Maintenant, si on reprend l'exemple que j'ai donné tantôt, la personne qui était payée, au lieu d'être payée 15, mettons, elle est payée 12, bien, il y a un malaise à aller voir la personne qui va diriger ses études pour dire « Gars, il manque d'argent sur ma paie, qu'est-ce que je fais?
Ouais, »
Donc,
ouais,
ces
ouais.
personnes-là ont aucun recours.
Puis, souvent, ce qui arrive, c'est quand on va rencontrer les étudiants et étudiantes, on leur explique que c'est l'université qui est l'employeur, puis ils ne nous croient pas. Ils disent « Bien non, c'est mon professeur qui m'a engagé. » Non, non, non. Le professeur, dans le cadre de l'université, c'est un cadre. C'est le cas de le dire, c'est vraiment, c'est un cadre. Il procède à ton embauche, mais ultimement, l'employeur, c'est l'université.
Fait que ça fait des relations un peu difficiles parce qu'ils sont quand même redevables à leurs professeurs s'ils veulent avoir une certaine...
Une bonne ambiance de travail pour le reste des études.
Donc, c'est évidemment de prendre toute la sphère administrative, c'est-à-dire que le professeur fait un travail administratif lorsqu'il s'occupe d'un employé, lorsqu'il s'occupe de calculer ses heures, de signer un contrat, de donner tout ce travail administratif-là à l'université, puis ça avantage le prof, ça avantage la relation prof-étudiant, puis ça clarifie les choses aussi. Puis évidemment, ben, ce qui est le plus important dans un syndicat, ben, c'est de pouvoir signer une convention collective. C'est pas mal plus fort que de tout le temps quêter ses petits avantages avec son prof individuellement. Puis quand on est tout seul devant un problème, ben, au moins on a une organisation qui nous soutient si on a un problème, si on est victime d'abus, si on est victime d'harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, racisme, whatever, problème de santé, sécurité au travail, on en parlait tantôt, ben là, au moins, il y a des recours. Si il y a un étudiant qui se blesse dans un laboratoire puis qui est pogné pour aller à la commission des lésions professionnelles avec la CSST, il va avoir tout un paquet de fonctionnaires qui vont lui demander « Ah ouais, t'es pas apte au travail, toi. » Il va falloir qu'il prouve tout seul qu'il n'est pas apte au travail. Mais s'il n'y a pas de médecin pour avoir une contre-expertise comme de quoi qu'il n'est pas apte au travail, puis s'il n'y a pas une association de salariés, un syndicat qui le soutient là-dedans, ben, ça va être difficile de passer à travers. Donc, c'est ça, en fait. Sinon, on peut parler des assurances aussi, là, ce qu'on...
Ben, on va continuer.
Il y a bien des choses à dire.
On va continuer après la chanson sur... on va approfondir un peu plus. C'est quoi la réaction de la réaction patronale? Donc, comment est-ce que l'université réagit par rapport à cette campagne-là? Puis, qu'est-ce que vous entrevoyez à long terme? Ça marche? Donc, on s'en va écouter Rage Against the Machine avec la chanson Sleep Now in the Fire. On revient dans quelques minutes. Au revoir.
CFLX 95,5 FM. La radio communautaire de l'Estrie.